Quand une femme à la voix de soprano émet ses notes vibrantes et mélodieuses, à l'audition de cette harmonie humaine, mes yeux se remplissent d'une flamme latente et lancent des éclairs douloureux, tandis que dans mes oreilles semble retentir le tocsin de la canonnade. D'où peut venir cette répugnance profonde pour tout ce qui tient à l'homme? Si des accords s'envolent des fibres de l'instrument, j'écoute avec volupté ces notes perlées qui s'échappent en cadence à travers les ondes élastiques de l'atmosphère. La perception se transmet à mon ouïe qui eut l'impression d'une douceur à fondre les nerfs et la pensée. Un assoupissement ineffable enveloppe de ses pavots magiques, comme d'un voile qui tamise la lumière du jour, la puissance active de mes sens et les forces vivaces de mon imagination. On raconte que je naquis entre les bras de la surdité. Aux premières époques de mon enfance, je n'entendais pas ce qu'on me disait. Quand, avec les plus grandes difficultés, on parvint à m'apprendre à parler, c'était seulement après avoir lu sur une feuille de quelqu'un qui écrivait que je pouvais communiquer à mon tour le fil de mes raisonnements. Un jour, jour néfaste, je grandissais en beauté et en innocence et chacun admirait l'intelligence et la bonté du divin adolescent. Beaucoup de consciences rougissaient quand elles contemplaient ces traits limpides où son âme avait placé son trône. On ne s'approchait de lui qu'avec vénération, parce qu'on remarquait dans ses yeux le regard d'un ange. Mais non, je savais du reste que les roses heureuses de l'adolescence ne devaient pas fleurir perpétuellement, tressées en guirlandes capricieuses sur son front modeste et noble qu'embrassaient avec frénésie toutes les mères. Il commençait à me sembler que l'univers, avec sa voûte étoilée de globes impassibles et agaçants, n'était peut-être pas ce que j'avais rêvé de plus grandiose. Un jour donc, fatigué de talonner du pied le sentier abrupt du voyage terrestre, et de m'en aller en chancelant comme un homme ivre à travers les catacombes obscures de la vie, je soulevai avec lenteur mes yeux splinétiques, cerné d'un grand cercle bleuâtre vers la concavité du firmament, et j'osais pénétrer, moi, si jeune, les mystères du ciel. Ne trouvant pas ce que je cherchais, je soulevai la paupière effarée plus haut encore, jusqu'à ce que j'aperçusse un trône formé d'excréments humains et d'or, sur lequel trônait, avec un orgueil idiot, le corps recouvert d'un linceul fait avec des draps non lavés d'hôpital, celui qui s'intitule lui-même le Créateur. Il tenait à la main le tronc pourri d'un homme mort et le portait alternativement des yeux au nez, du nez à la bouche. Une fois à la bouche, on devine ce qu'il en faisait. Ses pieds plongeaient dans une vaste mare de sang en ébullition, à la surface duquel s'élevaient tout à coup, comme des ténias à travers le contenu d'un pot de chambre, deux ou trois têtes prudentes et qui s'abaissaient aussitôt avec la rapidité de la flèche. Un coup de pied bien appliqué sur l'os du nez était la réponse connue de la révolte au règlement, occasionnée par le besoin de respirer un autre milieu. Car enfin, ces hommes n'étaient pas des poissons. Amphibies tout au plus, ils nageaient entre deux eaux dans ce liquide immonde, jusqu'à ce que, n'ayant plus rien dans la main, le Créateur, avec les deux premières griffes du pied, saisit un autre plongeur par le cou, comme dans une tenaille, et le souleva en l'air en dehors de la vase rougeâtre, sauce exquise. Pour celui-là, il faisait comme pour l'autre. Il lui dévorait d'abord la tête, les jambes et les bras, et en dernier lieu le tronc jusqu'à ce qu'il ne restât plus rien, car il croquait les os. ainsi de suite, durant les autres heures de son éternité. Quelquefois, il s'écriait « Je vous ai créé, donc j'ai le droit de faire de vous ce que je veux. Vous m'avez rien fait, je ne dis pas le contraire. Je vous fais souffrir, mais c'est pour mon plaisir. » Et il reprenait son repas cruel, en remuant sa mâchoire inférieure, laquelle remuait sa barbe pleine de cervelle. Ô lecteur, ce dernier détail ne te fait-il pas venir l'eau à la bouche? N'en mange pas qui veut d'une pareille cervelle, si bonne, toute fraîche, et qui vient d'être le pêché, il n'y a qu'un quart d'heure, dans le lac aux poissons. Les membres paralysés, la gorge muette, je contemplais quelque temps ce spectacle. Trois fois, je faillis tomber à la renverse, comme un homme qui subit une émotion trop forte. Trois fois, je parvins à me remettre sur les pieds. Pas une fibre de mon corps ne restait immobile, et je tremblais comme tremble la lave intérieure d'un volcan. À la fin, ma poitrine oppressée ne pouvant chasser avec assez de vitesse l'air qui donne la vie, les lèvres de ma bouche s'entr'ouvrirent et je poussai un cri si déchirant que je l'entendis. Les entraves de mon oreille se délièrent d'une manière brusque, le tympan craqua sous le choc de cette masse d'air sonore repoussée loin de moi avec énergie, et il se passa un phénomène nouveau dans l'organe condamné par la nature. Je venais d'entendre un son. Un cinquième sens se révélait en moi. Mais quel plaisir eussé-je pu trouver d'une pareille découverte? Désormais, le son humain arriva à mon oreille qu'avec le sentiment de la douleur qu'engendre la pitié pour une grande injustice. Quand quelqu'un me parlait, je me rappelais ce que j'avais vu un jour au-dessus des sphères visibles, et la traduction de mes sentiments étouffés en un hurlement impétueux, dont le timbre était identique à celui de mes semblables. Je ne pouvais pas lui répondre, car les supplices s'exerçaient sur la faiblesse de l'homme, dans cette mer hideuse de pourpre, passaient devant mon front en rugissant, comme des éléphants écorchés, et rasaient de leurs ailes de feu mes cheveux calcinés. Plus tard, quand je connus davantage l'humanité, à ce sentiment de pitié se joignit une fureur intense contre cette tigresse marâtre dont les enfants endurcis ne savent que maudire et faire de mal. Audace du mensonge! Ils disent que le mal n'est chez eux qu'à l'état d'exception. Et maintenant, c'est fini depuis longtemps. Depuis longtemps, je n'adresse la parole à personne. Ô vous, qui que vous soyez, quand vous serez à côté de moi, que les cordes de votre glotte n'aissent échapper aucune intonation, que votre larynx immobile n'aille pas s'efforcer de surpasser le rossignol, et vous-même n'essayez nullement de me faire connaître votre âme à l'aide du langage. Gardez un silence religieux que rien n'interrompe. Croisez humblement vos mains sur la poitrine et dirigez vos paupières sur le bas. Je vous l'ai dit depuis la vision qui me fit connaître la vérité suprême. Assez de cauchemars ont sucé avidement ma gorge pendant les nuits et les jours pour avoir encore le courage de renouveler, même par la pensée, les souffrances que j'éprouvais dans cette heure infernale qui me poursuit sans relâche de son souvenir. Oh, quand vous entendez l'avalanche de neige tomber du haut de la froide montagne, la lionne se plaindre au désert aride de la disparition de ses petits, la tempête accomplir sa destinée, le condamné mugir dans la prison la veille de la guillotine, et le poulpe féroce racontait aux vagues de la mer ses victoires sur les nageurs et les naufragés. Dites-le, Ces voix majestueuses ne sont-elles pas plus belles que le ricanement de l'homme? Il existe un insecte que les hommes nourrissent à leurs frais. Oh, ils ne lui doivent rien, mais ils le craignent. Celui-ci, qui n'aime pas le vin, mais qui préfère le sang, si on ne satisfaisait pas à ses besoins légitimes, serait capable, par un pouvoir occulte, de devenir aussi gros qu'un éléphant, d'écraser les hommes comme des épis. Aussi faut-il voir comme on le respecte, comme on l'entoure d'une vénération canine, comme on le place en haute estime au-dessus des animaux de la création. On lui donne la tête pour trône et il accroche ses griffes à la racine des cheveux avec dignité. Plus tard, lorsqu'il est gras et qu'il entre dans un âge avancé, en imitant la coutume d'un peuple ancien, on le tue afin de ne pas lui faire sentir les atteintes de la vieillesse. On lui fait des funérailles grandioses, comme un héros, et la bière qui le conduit directement vers le couvercle de la tombe est portée sur les épaules par les principaux citoyens. Sur la terre humide que le fossoyeur remue avec sa pelle sagace, on combine des phrases multicolores sur l'immortalité de l'âme, sur le néant de la vie, sur la volonté inexplicable de la Providence, et le marbre se referme à jamais sur cette existence laborieusement remplie qui n'est plus qu'un cadavre. La foule se disperse et la nuit ne tarde pas à couvrir de ses ombres les murailles du cimetière. Mais consolez-vous, humains, de sa perte douloureuse. Voici sa famille innombrable qui s'avance et dont il vous a libéralement gratifié afin que votre désespoir fût moins amer et comme adouci par la présence agréable de ces avortons hargneux qui deviendront plus tard de magnifiques poux ornés d'une beauté remarquable, monstres à allure de sage. Il a couvé plusieurs douzaines d'œufs chéris avec son aile maternelle sur vos cheveux desséchés par la succion acharnée de ces étrangers redoutables. La période est promptement venue où les œufs ont éclaté. Oh, ne craignez rien, ils ne tarderont pas à grandir, ces adolescents philosophes, à travers cette vie éphémère. Ils grandiront tellement qu'ils vous le feront sentir avec leurs griffes et leurs suçoirs. Vous ne savez pas, vous autres, pourquoi ils ne dévorent pas les os de votre tête et qu'ils se contentent d'extraire avec leur pompe la quintessence de votre sang. Attendez un instant, je vais vous le dire. C'est parce qu'ils n'en ont pas la force. Soyez certains que si leur mâchoire était conforme à la mesure de leurs vœux infinis, la cervelle, la rétine des yeux, la colonne vertébrale, tout votre corps y passerait, comme une goutte d'eau. Sur la tête d'un jeune mendiant des rues, observez avec un microscope un pouls qui travaille. Vous m'en donnerez des nouvelles. Malheureusement, ils sont petits, ces brigands de la longue chevelure. Ils ne seraient pas bons pour être conscrits, car ils n'ont pas la taille nécessaire exigée par la loi. Ils appartiennent au monde lilliputien de ceux de la courte cuisse, et les aveugles n'hésitent pas à les ranger parmi les infiniment petits. Malheur au cachalot qui se battrait contre un pou, mais il serait dévoilé en un clin d'œil, malgré sa taille. Il ne resterait pas la queue pour aller annoncer la nouvelle. L'éléphant se laisse caresser, le pou non. Oh, je vous conseille pas de tenter cet essai périlleux. Gare à vous si votre main est poilue ou que seulement elle soit composée d'eau et de chair. C'en est fait de vos doigts. Ils craqueront comme s'ils étaient à la torture. La peau disparaît par un étrange enchantement. Les poux sont incapables de commettre autant de mal que leur imagination en médite. Si vous trouvez un pou dans votre route, passez votre chemin et ne lui léchez pas les papilles de la langue. il vous arriverait quelque accident. Cela s'est vu. N'importe, je suis déjà content de la quantité de mal qu'il te fait, ô race humaine. Seulement, je voudrais qu'il t'en fît davantage. Mais jusqu'à quand garderas-tu le culte vermoulu de ce dieu, insensible à tes prières et aux offrandes généreuses que tu lui offres en holocauste expiatoire? Mais vois, il n'est pas reconnaissant, ce Manitou horrible, des larges coupes de sang et de cervelle que tu répands sur ses autels, pieusement décorés de guirlandes de fleurs. Il n'est pas reconnaissant, car les tremblements de terre et les tempêtes continuent de sévir depuis le commencement des choses. Et cependant, spectacle digne d'observation, plus il se montre indifférent, plus tu l'admires. On voit que tu te méfies de ses attributs, qu'il cache. Et ton raisonnement s'appuie sur cette considération qu'une divinité d'une puissance extrême peut seule montrer tant de mépris envers les fidèles qui obéissent à sa religion. C'est pour cela que dans chaque pays existent des dieux divers. Ici le crocodile, là la vendeuse d'amour. Mais quand il s'agit du pou, à ce nom sacré, baisant universellement les chaînes de leur esclavage, tous les peuples s'agenouillent ensemble sur le parvis auguste, devant le piédestal de l'idole informe et sanguinaire. Le peuple, qui n'obéirait pas à ses propres instincts de rampement et ferait mine de révolte, disparaîtrait tôt ou tard de la terre, comme la feuille d'automne anéantie par la vengeance du dieu inexorable. Ô pou, à la prunelle recroquevillée, tant que les fleuves répandront la pente de leurs eaux dans les abîmes de la mer, tant que les astres graviteront sur le sentier de leur orbite, tant que le vide muet n'aura pas d'horizon, tant que l'humanité déchirera ses propres flancs par des guerres funestes, tant que la justice divine précipitera ses foudres vengeresses sur ce globe égoïste, tant que l'homme méconnaîtra son Créateur et se narguera de lui, non sans raison, en y mêlant du mépris, ton règne sera assuré sur l'univers et ta dynastie étendra ses anneaux de siècle en siècle. Je te salue, soleil levant, libérateur céleste, toi, l'ennemi invisible de l'homme. Continue de dire à la saleté de s'unir avec lui dans des embrasements impurs et de lui jurer, par des serments non écrits dans la poudre, qu'elle restera son amante fidèle jusqu'à l'éternité. Baise de temps en temps la robe de cette grande impudique en mémoire des services imposants qu'elle ne manque pas de te rendre. Si elle ne séduisait pas l'homme avec ses mamelles lascives, il est probable que tu ne pourrais pas exister, toi, le produit de cet accouplement raisonnable et conséquent. Ô fils de la saleté, dis à ta mère que si elle délaisse la couche de l'homme, marchant à travers des rondes solitaires, seule et sans appui, elle verra son existence compromise. Que ses entrailles, qui t'ont porté 9 mois dans leurs parois parfumées, s'émeuvent un instant à la pensée des dangers que courraient par suite de leurs tendres fruits, si gentils et si tranquilles, mais déjà froids et féroces. Saleté, reine des empires, conserve aux yeux de ma haine le spectacle de l'accroissement insensible des muscles de la progéniture affamée. Pour atteindre ce but, tu sais qu'il n'a qu'à te coller plus étroitement contre les flancs de l'homme. Tu peux le faire sans inconvénient pour la pudeur, puisque tous les deux vous êtes mariés depuis longtemps. Pour moi, s'il m'est permis d'ajouter quelques mots à cet hymne de glorification, je dirais que j'ai fait construire une fosse de 40 lieues carrées d'une profondeur relative. C'est là que gît, dans sa virginité immonde, une mine vivante de poux. Elle remplit les bas-fonds de la fosse et serpente ensuite en large veine dense dans toutes les directions. Et voici comment j'ai construit cette mine artificielle. J'arrachais un pou femelle aux cheveux de l'humanité. On m'a vu se coucher avec lui pendant 3 nuits consécutives, et je le jetais dans la fosse. La fécondation humaine, qui aurait été eue nulle dans d'autres cas pareils, fut acceptée cette fois par la fatalité, et au bout de quelques jours, des milliers de monstres grouillant dans un nœud compact de matière, naquirent à la lumière. Et ce nœud hideux devint par le temps de plus en plus immense, tout en acquérant la propriété liquide du mercure, et se ramifia en plusieurs branches, qui se nourrissent actuellement en se dévorant elles-mêmes. La naissance est plus grande que la mortalité, toutes les fois que je ne leur jette pas en pâture un bâtard qui vient de naître, et dont la mère désirait la mort, ou un bras que je vais couper à quelques jeunes filles pendant la nuit, grâce au chloroforme. Tous les 15 ans, les générations de poux qui se nourrissent de l'homme diminuent d'une manière notable, et prédisent elles-mêmes infailliblement l'époque prochaine de leur complète destruction. Car l'homme, plus intelligent que son ennemi, parvient à le vaincre. Alors, avec une pelle infernale qui accroît mes forces, j'extrais de cette mine inépuisable des blocs de poux grands comme des montagnes, je les brise à coups de hache et je les transporte, pendant les nuits profondes, dans les artères des cités. Et là, au contact de la température humaine, ils se dissolvent comme au premier jour de leur formation dans les galeries tortueuses de la mine souterraine, se creusent un lit dans le gravier et se répandent en ruisseaux dans les habitations comme des esprits nuisibles. Le gardien de la maison aboie sourdement, car il lui semble qu'une légion d'êtres inconnus perce les portes des murs et apporte la terreur au chevet du sommeil. Peut-être n'êtes-vous pas sans avoir entendu au moins une fois dans votre vie ces sortes d'aboiements douloureux et prolongés. Avec ses yeux impuissants, il tâche de percer l'obscurité de la nuit, car son cerveau de chien ne comprend pas cela. Ce bourdonnement l'irrite et il sent qu'il est trahi. Des millions d'ennemis s'abattent ainsi sur chaque cité comme des nuages de sauterelles. En voilà pour 15 ans. Ils combattront l'homme en lui faisant des blessures cuisantes. Après ce laps de temps, j'en enverrai d'autres. Quand je concasse les blocs de matière animée, il peut arriver qu'un fragment soit plus dense qu'un autre. Ces atomes s'efforcent avec rage de séparer leur agglomération pour aller tourmenter l'humanité. Mais la cohésion résiste dans sa dureté. Par une suprême convulsion, ils engendrent un tel effort que la pierre, ne pouvant pas disperser ses principes vivants, s'élance d'elle-même jusqu'au haut des airs, comme par un effet de la poudre, et retombe en s'enfonçant solidement sous le sol. Et parfois, le paysan rêveur aperçoit un aérolithe fendre verticalement l'espace en se dirigeant du côté du bas vers un champ de maïs. Il ne sait d'où vient la pierre. Vous avez maintenant, claire et succincte, l'explication du phénomène. Si la terre était couverte de poux comme de grains de sable le rivage de la mer, la race humaine serait anéantie en proie à des douleurs terribles. Quel spectacle! Et moi, avec des ailes d'ange, immobile dans les airs, pour la contempler. Ô mathématiques sévères, je ne vous ai pas oublié depuis que vos savantes leçons, plus douces que le miel, filtrèrent dans mon cœur, comme une onde rafraîchissante. J'aspirais instinctivement, dès le berceau, à boire à votre source, plus ancienne que le soleil, et je continue encore de fouler le parvis sacré de votre temple solennel, moi le plus fidèle de vos initiés. Il y avait du vague dans mon esprit, un je ne sais quoi, épais comme de la fumée. Mais je sus franchir religieusement les degrés qui mènent à votre autel, et vous avez chassé ce voile obscur comme le vent chasse le damier. Vous avez mis à la place une froideur excessive, une prudence consommée et une logique implacable. À l'aide de votre lait fortifiant, mon intelligence s'est rapidement développée et a pris des proportions immenses au milieu de cette clarté ravissante dont vous faites présent avec prodigalité à ceux qui vous aiment d'un sincère amour. Arithmétique, algèbre, géométrie, trinité grandiose, triangle lumineux. Celui qui ne vous a pas connu est un insensé. Il mériterait l'épreuve des plus grands supplices, car il y a du mépris aveugle dans son inconscience ignorante. Mais celui qui vous connaît et vous apprécie ne veut plus rien des biens de la terre, se contente de vos jouissances magiques, et porté sur vos ailes sombres, ne désire plus que de s'élever d'un vol léger en construisant une hélice ascendante vers la voûte sphérique des cieux. La terre ne lui montre que des illusions et des fantasmagories morales, mais vous, ô mathématiques concises, par l'enchaînement rigoureux de vos propositions tenaces et la constance de vos lois de fer, vous faites luire aux yeux éblouis un reflet puissant de cette vérité suprême dont on remarque l'empreinte dans l'ordre de l'univers. Mais l'ordre qui vous entoure, représenté surtout par la régularité parfaite du carré, l'ami de Pythagore, est encore plus grand, car le Tout-Puissant s'est révélé complètement, lui et ses attributs, dans ce travail mémorable qui consista à faire sortir des entrailles du chaos vos trésors des théorèmes et vos magnifiques splendeurs. Aux époques antiques et dans les temps modernes, plus d'une grande imagination humaine vit son génie épouvanté à la contemplation de vos figures symboliques tracées sur le papier brûlant comme autant de signes mystérieux, vivant d'une haleine latente, que ne comprend pas le vulgaire profane qui n'était que la révélation éclatante d'axiomes et d'hiéroglyphes éternels qui ont existé avant l'univers et qui se maintiendront après lui. Elle se demande, penchée vers le précipice d'un point d'interrogation fatal, comment se fait-il que les mathématiques contiennent tant d'imposantes grandeurs et tant de vérités incontestables, tandis que, si elle les compare à l'homme, elle ne trouve en ce dernier que faux orgueil et mensonge. Alors, cet esprit supérieur, attristé, auquel la familiarité noble de vos conseils fait sentir davantage la petitesse de l'humanité et son incomparable folie, plonge sa tête blanchie sur une main décharnée et reste absorbé dans des méditations surnaturelles. Il incline ses genoux devant vous et sa vénération rend hommage à votre visage divin comme à la propre image du Tout-Puissant. Pendant mon enfance, vous m'apparut une nuit de mai au rayon de la lune sur une plaine verdoyante au bord d'un ruisseau limpide, toutes les trois égales en grâce et en pudeur, toutes les trois pleines de majesté comme des reines. Vous fîtes quelques pas vers moi avec votre longue robe flottante comme une vapeur et vous m'attirâtes vers vos fières mamelles comme un fils béni. Alors j'accourus avec empressement, mes mains crispées sur votre blanche gorge. Je me suis nourri avec reconnaissance de votre manne féconde, et j'ai senti que l'humanité grandissait en moi et devenait meilleure. Depuis ce temps, ô déesse rivale, je ne vous ai pas abandonné. Depuis ce temps, oh, que de projets énergiques, que de sympathies que je croyais avoir gravées sur les pages de mon cœur comme sur du marbre, n'ont-elles pas effacé lentement de ma raison désabusée leur ligne configurative, comme l'aube naissance efface les ombres de la nuit. Depuis ce temps, j'ai vu la mort, dans l'intention visible à l'œil et nu, de peupler les tombeaux, ravager les champs de bataille, engraisser par le sang humain et faire pousser des fleurs matinales par-dessus les funèbres ossements. Depuis ce temps, j'ai assisté aux révolutions de notre globe, les tremblements de terre, les volcans avec leurs laves embrasées, le simoun du désert et les naufrages de la tempête ont eu ma présence pour spectateur impassible. Depuis ce temps, j'ai vu plusieurs générations humaines élever le matin ses ailes et ses yeux vers l'espace avec la joie inexpérimentée de la chrysalide qui salue sa dernière métamorphose, et mourir le soir avant le coucher du soleil, la tête courbée, comme des fleurs fanées que balance le sifflement plaintif du vent. Mais vous, vous restez toujours les mêmes. Aucun changement, aucun air empesté n'effleure les rocs escarpés et les vallées immenses de votre identité. Vos pyramides modestes dureront davantage que les pyramides d'Égypte, fourmilières élevées par la stupidité et l'esclavage. La fin des siècles verra encore, debout sur les ruines des temps, vos chiffres cabalistiques, vos équations laconiques et vos lignes sculpturales siéger à la droite vengeresse du Tout-Puissant. Tandis que les étoiles s'enfonceront avec désespoir comme des trombes dans l'éternité d'une nuit horrible et universelle, et que l'humanité grimaçante songera à faire ses comptes avec le jugement dernier. Merci pour les services innombrables que vous m'avez rendus. Merci pour les qualités étrangères dont vous avez enrichi mon intelligence. Sans vous, dans ma lutte contre l'homme, j'aurais peut-être été vaincu. Sans vous, il m'aurait fait rouler dans le sable et embrasser la poussière de ses pieds. Sans vous, avec une griffe perfide, il aurait labouré ma chair et mes os. Mais je me suis tenu sur mes gardes comme un athlète expérimenté. Vous me donnâtes la froideur qui surgit de vos conceptions sublimes, exemptes de passion. Je m'en servis pour rejeter avec dédain les jouissances éphémères de mon court voyage et pour envoyer de ma porte les offres sympathiques, mais trompeuses, de mes semblables. Vous me donnâtes la prudence opiniâtre qu'on déchiffre à chaque pas dans vos méthodes admirables de l'analyse, de la synthèse et de la déduction. Je m'en servis pour dérouter les ruses pernicieuses de mon ennemi mortel, pour l'attaquer à mon tour avec adresse et plonger dans les viscères de l'homme un poignard aigu qui restera à jamais enfoncé dans son corps. Car c'est une blessure dont il ne se relèvera jamais pas. Vous me donnâtes la logique, qui est, comme l'âme elle-même de vos enseignements, plein de sagesse, avec ses syllogismes, dont le labyrinthe compliqué n'en est que plus compréhensible, Mon intelligence sentit s'accroître du double ses forces audacieuses. À l'aide de cet auxiliaire terrible, je découvris dans l'humanité, en nageant vers les bas-fonds, en face de l'écueil de la haine, la méchanceté noire et hideuse qui croupissait au milieu de miasmes délétères en s'admirant le nombril. Le premier, je découvris dans les ténèbres de ses entrailles, ce vice détestable, vaste, le mal, supérieur en lui au bien. Avec cette arme empoisonnée que vous me prêtâtes, je fis descendre de son piédestal, construit par la lâcheté de l'homme, le Créateur lui-même. Il grinça des dents et subit cette injure ignominieuse, car il avait pour adversaire quelqu'un de plus fort que lui. Mais je le laisserai de côté, comme un paquet de ficelles, afin d'abaisser mon vol. Le penseur Descartes faisait une fois cette réflexion que rien de solide n'avait été bâti sur vous. C'était une manière ingénieuse de faire comprendre que le premier venu ne pouvait pas, sur le coup, découvrir votre valeur inestimable. En effet, quoi de plus solide que les trois qualités principales déjà nommées, qui s'élèvent entrelacées comme une couronne unique sur le sommet auguste de votre architecture colossale. Monument qui grandit sans cesse de découvertes quotidiennes, dans vos mines de diamants et d'explorations scientifiques dans vos superbes domaines. Ô mathématique sainte, puissiez-vous, par votre commerce perpétuel, consoler le reste de mes jours de la méchanceté de l'homme et de l'injustice du grand tout. Ô lampe au bec d'argent, mes yeux t'aperçoivent dans les airs, compagne de la voûte des cathédrales, et cherche la raison de cette suspension. On dit que tes lueurs éclairent pendant la nuit la tourbe de ceux qui viennent adorer le Tout-Puissant, et que tu montres aux repentis le chemin qui mène à l'autel. Écoute, c'est fort possible, mais est-ce que tu as besoin de rendre de pareils services à ceux auxquels tu ne dois rien? Laisse plonger dans les ténèbres les colonnes des basiliques, et lorsqu'une bouffée de la tempête sur laquelle le démon tourbillonne, emportée dans l'espace, pénétrera avec lui dans le saint lieu en y répandant l'effroi, au lieu de lutter courageusement contre la rafale empestée du prince du mal, éteins-toi subitement sous son souffle fiévreux, pour qu'il puisse, sans qu'on le voie, choisir ses victimes parmi les croyants agenouillés. Ah, si tu fais cela, tu peux dire que je te devrai tout mon bonheur. Quand tu reluis ainsi en répandant tes clartés indécises, mais suffisantes, je n'ose pas me livrer aux suggestions de mon caractère, et je reste sous le portique sacré, en regardant par le portail entrouvert ce qui échappe à ma vengeance dans le sein du Seigneur. Ô lampe poétique, toi qui serais mon ami, si tu pouvais me comprendre, quand mes pieds foulent la salle des églises dans les heures nocturnes, pourquoi te mets-tu à briller d'une manière que, je l'avoue, me paraît extraordinaire? Tes reflets se colorent alors des nuances blanches de la lumière électrique. L'œil ne peut pas te fixer, et tu éclaires d'une flamme nouvelle et puissante les moindres détails du chenil du Créateur, comme si tu étais en proie à une sainte colère. Et quand je me retire après avoir blasphémé, tu redeviens inaperçu, modeste et pâle, sûr d'avoir accompli un acte de justice. Dis-moi un peu, serait-ce parce que tu connais les détours de mon cœur que lorsqu'il m'arrive d'apparaître ou de veiller, tu t'empresses de désigner ma présence pernicieuse et de porter l'attention des adorateurs vers le côté où vient de se montrer l'ennemi des hommes? Je penche vers cette opinion, car moi aussi je commence à te connaître. Et je sais qui tu es, vieille sorcière, qui veille si bien sur les mosquées sacrées où se pavane comme la crête d'un coq ton maître curieux. Vigilante gardienne, tu t'es donné une mission folle. Je t'avertis, la première fois que tu me désigneras la prudence de mes semblables, par l'augmentation de tes lueurs phosphorescentes, comme je n'aime pas ce phénomène d'optique, qu'il est mentionné du reste dans aucun livre de physique, je te prends par la peau de ta poitrine en accrochant mes griffes aux escarres de ta nuque teigneuse, et je te jette dans la Seine. Je ne prétends pas que lorsque je ne te fais rien, tu te comportes sciemment d'une manière qui me soit nuisible. Là, je te permettrai de briller autant qu'il me sera agréable. Là, tu me nargueras avec un sourire inextinguible. Là, convaincu de l'incapacité de ton huile criminelle, tu l'urineras avec amertume. Après avoir parlé ainsi, Maldoror ne sort pas du temple et reste les yeux fixés sur la lampe du Saint-Lieu. Il croit voir une espèce de provocation dans l'attitude de cette lampe qui l'irrite au plus haut degré par sa présence inopportune. Il se dit que si quelque âme est renfermée dans cette lampe, elle est lâche de ne pas répondre à une attaque loyale par la sincérité. Il balère de ses bras nerveux et souhaiterait que la lampe se transformât en homme. Ha ! Il lui ferait passer un mauvais quart d'heure. Il se le promet. Mais le moyen qu'une lampe se change en homme n'est pas naturel. Il ne se résigne pas et va chercher, sur le parvis de la misérable pagode, un caillou plat à tranchant effilé. Il le lance en l'air avec force. La chaîne est coupée par le milieu, comme l'herbe par la faux, et l'instrument du culte tombe à terre en répandant son huile sur les dalles. Il saisit la lampe pour la porter dehors, mais elle résiste et grandit. Il lui semble voir des ailes sur ses flancs, et la partie supérieure revêt la forme d'un buste d'ange. Le tout veut s'élever en l'air pour prendre son essor, mais il le retient d'une main ferme. Une lampe et un ange qui forment un même corps, voilà ce qu'on ne voit pas souvent. Il reconnaît la forme de la lampe, il reconnaît la forme de l'ange, mais il ne peut pas les scinder dans son esprit. En effet, dans la réalité, elles sont collées l'une dans l'autre et ne forment qu'un corps indépendant et libre. Mais lui croit que quelques nuages a voilé ses yeux et lui a fait perdre un peu de l'excellence de sa vue. Néanmoins, il se prépare à la lutte avec courage, car son adversaire n'a pas peur. Les gens naïfs racontent à ceux qui veulent les croire que le portail sacré se referma de lui-même en roulant sur ses gonds affligés pour que personne ne pût assister à cette lutte impie dont les péripéties allaient se dérouler dans l'enceinte du sanctuaire violet. L'homme au manteau, pendant qu'il reçoit des blessures cruelles avec un glaive invisible, s'efforce de rapprocher de sa bouche la figure de l'ange. Il ne pense qu'à cela et tous ses efforts se portent vers ce but. Celui-ci perd son énergie et paraît pressentir sa destinée. Il ne lutte plus que faiblement, et l'on voit le moment où son adversaire pourra l'embrasser à son aise, si c'est ce qu'il veut faire. Eh bien, le moment est venu. Avec ses muscles, il étrangle la gorge de l'ange, qui ne peut plus respirer, et lui renverse le visage en l'appuyant sur sa poitrine odieuse. Il est un instant touché du sort qui attend cet être céleste, dont il aurait volontiers fait son ami. Mais il se dit que c'est l'envoyé du Seigneur et il ne peut pas retenir son courroux. C'en est fait. Quelque chose d'horrible va rentrer dans la cage du temps. Il se penche et porte la lampe imbibée de salive sur cette joue angélique qui jette des regards suppliants. Il promène quelque temps sa lampe sur cette joue. Oh, voyez, voyez donc. La joue blanche et rose est redevenue noire, comme un charbon. Elle exhale des miasmes putrides. C'est la gangrène, il n'est plus permis d'en douter. Le mâle rongeur s'étend sur toute la figure et de là exerce ses furies sur les parties basses. Bientôt, tout le corps n'est qu'une vaste plaie immonde. Lui-même épouvanté, car il ne croyait pas que sa langue contînt un poison d'une telle violence, il ramasse la lampe et s'enfuit de l'église. Une fois dehors, il aperçoit dans les airs une forme noirâtre aux ailes brûlées qui dirige péniblement son vol vers les régions du ciel. Ils se regardent tous les deux pendant que l'ange monte vers les hauteurs sereines du bien et que lui, mal d'aurore au contraire, descend vers les abîmes vertigineux du mal. Quel regard! Tout ce que l'humanité a pensé depuis 60 siècles, et ce qu'elle pensera encore pendant les siècles suivants, pourrait y contenir aisément, tant de choses se dirent-ils dans cet adieu suprême. Mais on comprend que c'était des pensées plus élevées que celles qui jaillissent de l'intelligence humaine. D'abord à cause des deux personnages, et puis à cause de la circonstance. Ce regard les noua d'une amitié éternelle. Il s'étonne que le Créateur puisse avoir des missionnaires d'une âme si noble. Un instant, il croit s'être trompé et se demande s'il aurait dû suivre la route du mal, comme il l'a fait. Le trouble est passé. Il persévère dans sa résolution. Et il est glorieux, d'après lui, de vaincre tôt ou tard le grand tout, afin de régner à sa place sur l'univers entier et sur des légions d'anges aussi beaux. Celui-ci lui fait comprendre, sans parler, qu'il reprendra sa forme primitive à mesure qu'il montera vers le ciel. Laisse tomber une larme qui rafraîchit le front de celui qui lui a donné la gangrène et disparaît peu à peu comme un vautour en s'élevant au milieu des nuages. Le coupable regarde la lampe, cause de ce qui précède. Il court comme un insensé à travers les rues, se dirige vers la Seine et lance la lampe par-dessus le parapet. Elle tourbillonne pendant quelques instants et s'enfonce définitivement dans les eaux bourbeuses. Depuis ce jour, chaque soir, dès la tombée de la nuit, l'on voit une lampe brillante qui surgit et se maintient gracieusement sur la surface du fleuve à la hauteur du pont Napoléon, emportant, au lieu dense, 2 millions ailes d'anges. Elle s'avance lentement sur les eaux, passe sous les arches du pont de la gare et du pont d'Austerlitz, et continue son sillage silencieux sur la Seine jusqu'au pont de l'Alma. Une fois en cet endroit, elle remonte avec facilité le cours de la rivière et revient au bout de 4 heures à son point de départ. Ainsi de suite pendant toute la nuit. Ses lueurs, blanches comme la lumière électrique, effacent les becs de gaz qui longent les deux rives et entre lesquels elle s'avance comme une reine, solitaire, impénétrable, avec un sourire inextinguible, sans que son huile se répande avec amertume. Au commencement, les bateaux lui faisaient la chasse, mais elle déjouait ses vains efforts, échappait à toutes les poursuites en plongeant comme une coquette et reparaissait plus loin à une grande distance. Maintenant, les rameurs superstitieux, lorsqu'ils la voient, rament vers une direction opposée et retiennent leur chanson. Quand vous passez sur un pont pendant la nuit, faites bien attention. Vous êtes sûr de voir briller la lampe ici ou là. Mais on dit qu'elle ne se montre pas à tout le monde. Quand il passe sur les ponts un être humain qui a quelque chose sur la conscience, elle éteint subitement ses reflets et le passant épouvanté fouille en vain d'un regard désespéré la surface et le limon du fleuve. Il sait ce que cela signifie. Il voudrait croire qu'il a vu la céleste lueur, mais il se dit que la lumière venait du devant des bateaux ou de la réflexion des becs de gaz, et il a raison. Il sait que cette disparition, c'est lui qui en est la cause. Et, plongé dans de tristes réflexions, il hâte le pas pour gagner sa demeure. Alors la lampe au bec d'argent reparaît à la surface et poursuit sa marche à travers des arabesques élégantes et capricieuses.